voudrais, à partir de là, essayer de proposer donc quelques réflexions sur les conséquences de cette mise sous tension du pluralisme par la participation sur la durabilité. Alors, d'abord, en rappelant des choses qui ont été également évoquées ce matin, mais c'est toujours délicat de faire la part entre ce qui relève de façon directe de l'offre publique des participations, des de facteurs autres, notamment les éléments de contexte liés aux configurations territoriales, nationales, politiques, ça a été dit, à la nature des projets mis en discussion, à des dynamiques institutionnelles, économiques et sociales plus générales. Et en la matière, d'ailleurs, quand on fait une revue de la littérature et qu'on cherche à voir qui écrit quoi sur les effets de la participation, on voit bien qu'il y a énormément d'effets de contingence, une grande instabilité des effets, des observations d'ailleurs souvent contradictoires, y compris sur un même dispositif, et donc une vraie difficulté à établir des lois générales et scientifiques stabilisées. Alors c'est vrai en matière de durabilité, ça a été dit, c'est que lorsque, si on veut évaluer la performance des dispositifs en la matière, eh bien, on ne peut pas occulter des dynamiques de construction des représentations sociales qui traversent des scènes extrêmement diverses, à la fois institutionnelles, mais aussi scientifiques, associatives et corporatistes, à toutes les échelles, au niveau local, national qu'international. Donc là, il y a un vrai défi hein, pour nous, les chercheurs, mais aussi les acteurs. Et alors, d'autant plus quand un même dispositif peut produire, au fond, des logiques de circulation et d'imposition des arguments différenciés. Donc, je voudrais m'arrêter sur ce point, puisque c'était une des observations issues donc, de cette évaluation du débat national sur l'eau donc, j'avais réalisé à la demande du GRETS, EDF, il y a quelques années. Alors, ce débat national sur l'eau, lancé à l'initiative de Roselyne Bachelot, il est situé en amont de l'élaboration du projet de loi sur l'eau. Donc c'est un mécanisme intéressant d'appel à la participation en amont d'un production, un mécanisme de production législative. Hein, donc c'est ça l'objet du débat. Donc ça s'est déroulé sur 2 ans, 2003-2004. Et je voudrais, en fait, un des enjeux de l'étude, c'était à la fois de décrire le dispositif, de rencontrer des acteurs qui avaient participé, et de faire une analyse documentaire, c'est-à-dire vraiment de tous les documents qu'avait produit ce débat national, qui avait plusieurs scènes, plusieurs dispositifs imbriqués. Je ne rentre pas dans les détails, on y reviendra si vous le souhaitez. Et une des questions qui m'était posée, c'est au fond, que reste-t-il dans l'avant-projet de loi l'output des discussions et notamment des comptes rendus et des documents intermédiaires qui avaient été produits et relativement stabilisés. Alors ça, c'est intéressant comme démarche. Ça, on pouvait le faire parce que c'était clos. Hein. Il y avait là un effet de tempo et de séquence qu'on pouvait interroger de ce point de vue. Et donc j'ai retenu 3 objets qui avaient été mis à la discussion, 3 objets particulièrement sensibles et discutés, afin de repérer le chemin des arguments, mais surtout les acteurs qui les avaient portés au fil des débats, et voir qui, au final, l'avait emporté, et qu'est-ce qui restait dans l'avant-projet de loi. Et une des questions posées, c'était surtout quelle était la capacité des citoyens alors, ordinaires, puisqu'ils étaient invités, sur des modalités diverses, à avoir orienté les discussions en la matière. Alors, ces citoyens ils pouvaient participer alors, ou bien par sondage, par questionnaire, en ligne, et il y avait également une conférence citoyenne très dédiée à une seule des questions que je vais évoquer, au devenir des boues urbaines, des boues de résidus des stations d'épuration. Alors, ce que je voulais soumettre à votre sagacité, c'est qu'en l'occurrence, on s'aperçoit qu'il y a eu 3 dynamiques distinctes hein, sur les 3 objets, alors qu'on est bien dans un seul et même moment d'offre publique de participation. Alors, 3 dynamiques distinctes. Premier objet concernait la redevance azote. Donc soit ce principe hein, d'une soumission des agriculteurs à une redevance pour excédent d'azote, selon le principe pollueur-payeur. Alors, c'est un principe qui, avant le débat national, avait été inscrit dans ce qu'on appelle la petite loi sur l'eau, qui datait de 2002, mais qui avait... n'avait pas survécu à l'alternance. Et donc, au lancement du débat national sur l'eau, Il n'est dans l'esprit ni la direction de l'eau, ni la ministre de remettre en cause ce principe, qui va se trouver au fil des mois du débat consolidé par la délibération, les prises de position, et on a des organisations agricoles qui sont tout à fait disposées à l'accepter, même chose du côté des agences de l'eau et des bassins. Le grand public, on l'interroge, et de façon extrêmement majoritaire, décidé à soutenir cette redevance azote. Et à l'issue du débat, dans l'avant-projet de loi, on a bien un article qui institue une redevance au titre des pollutions engendrées par l'azote. Donc un sujet pas facile, qui est mûri consolidé par le débat national, qui a été légitimé en plus, puisque là, le pluralisme vient asseoir la légitimité de cette proposition. Or, dans ce cas, que se passe-t-il avant même le débat parlementaire? C'est un arbitrage du président Chirac qui va avoir raison des avancées obtenues par la délibération, sans même qu'il y ait eu de pression du milieu agricole, un arbitrage qui va se faire au regard là, d'un contexte politique jugé sensible, on l'évoquait ce matin, c'est-à-dire, bon, il y a une nouvelle PAC en préparation, des mouvements sociaux divers, des chercheurs, des médecins qui agitent un peu l'espace public, donc un climat agité, la crainte de déplaire à une partie de la clientèle UMP, enfin, voilà, des tas de raisons qui vont venir faire sauter cette disposition. Et ce que dit un des interlocuteurs rencontrés, c'est le fruit était mûr et on ne l'a pas cueilli, alors même que le débat venait d'ajouter un surcroît de légitimité à cette disposition. Donc là, on est vraiment dans une situation où on a mal, évidemment, le débat pouvait avoir un effet, mais au final, c'est une intervention extérieure, en tout cas politique, très directement, qui va prendre une décision à rebours de la durabilité, mais ce n'est pas incriminer le débat en la matière. Deuxième cas de figure, autour cette fois de la question de l'épandage agricole des boues domestiques, donc ces boues issues des stations d'épuration, là encore un sujet épineux. Au lancement du débat, les comités de bassin et les professionnels se prononcent pour cette valorisation agricole des boues, mais vont assortir cette position d'une demande de sécurisation juridique, technique, mais surtout financière, au regard du statut de ces boues, qui ont un statut de déchet, donc pour anticiper d'éventuels risques ultérieurs. On a cette même demande d'ailleurs de la part des organisations agricoles, qui ont demandé des garanties financières, mais quand on interroge le grand public, lui, il est toujours sourcilleux autour des questions à la fois de fiscalité et là, pour le coup, de fonds de garantie, et ils vont plutôt s'opposer de façon majoritaire à la mise en place, à l'instauration d'un fonds de garantie. Et là, ce qu'on observe comme issue des discussions, c'est que cette disposition, c'est-à-dire à la fois le fait de retenir la valorisation agricole des boues et d'instaurer un fonds garanti, va être retenu dans l'avant-projet de loi. Donc là, on a envie de dire, on a un effet du débat qui est plutôt, qui retient plutôt pas la position des citoyens telle qu'elle s'exprime, mais qui va tenir compte des rapports de force et considérer qu'il faut répondre favorablement aux prises de position d'un certain nombre d'acteurs, notamment des acteurs, certains corps intermédiaires, notamment autour des enjeux agricoles. Et troisième cas de figure, troisième objet que j'avais examiné, qui concernait cette fois l'institution de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA. Alors là, on a une proposition qui est très directement versée dans le débat par le gouvernement, qui lui cherche à réintroduire une régulation centralisée du secteur de l'eau, Donc, évidemment, une intention qui est très mal vécue par les agences et les comités de bassin, qui voient mal, évidemment, cette volonté de recentralisation. Et en même temps, notre partie des acteurs de la société civile organisée, notamment les associations environnementalistes, les associations de consommateurs, les syndicats, qui vont en revanche soutenir le gouvernement pour mettre en place un tel organisme. Ils avaient eux-mêmes pensé à un haut conseil de l'eau. Enfin, voilà. Et à l'issue du débat, eh bien, cet office est inscrit à un projet de loi. Et là, on va dire, y a une partie des acteurs organisés qui ne vont pas l'emporter, mais une autre qui, elle, va s'allier autour du projet gouvernemental de recentralisation. Alors, de fait, je vais vous livrer cet exemple parce qu'il montre aussi à quel point c'est là encore difficile et qu'il faut vraiment d'avoir des propositions, des analyses très générales. On voit sur trois cas particuliers, dans la même procédure, trois chemins des arguments très différenciés et avec, dans les trois cas, on pourrait dire, des rapports de force qui ont une incidence, mais qui ne permettent pas là, d'avoir des conclusions définies. Alors, reste quand même qu'on le voit ici, d'abord, on voit qu'il y a des effets, ces effets ne sont pas nuls. Et je voudrais là, c'est le dernier point que je voudrais aborder, au fond, on défend l'idée qu'il y a quand même, à mon sens, si on prend un peu de recul sur ces dernières années, au fond, un effet de l'offre publique de participation en matière de durabilité qui, au fond, a participé à la problématisation pluraliste et conflictuelle de cette durabilité. Au fond, s'il y a un effet à souligner, il est peut-être là. Et donc, cette problématisation pluraliste et conflictuelle de la durabilité, elle a évidemment des effets aussi en termes de diffusion dans l'opinion publique, au sein de la société civile organisée, encore une fois, de façon extrêmement critique et conflictuelle, mais aussi une incidence du côté des institutions et des autorités publiques. Alors, c'est ce que j'avais essayé de défendre donc en faisant ce espèce de bilan plusieurs années de débats publics menés par la Commission nationale des débats publics, où j'avais procédé de la façon suivante. Donc, encore une fois, ce n'est pas une évaluation systématisée et qui aurait une portée générale indiscutable, c'est vraiment une orientation qui permet d'avoir une grosse hypothèse de travail pour la suite. Mais j'avais regardé sur l'ensemble des débats, à partir des rapports d'activité de la CNDP notamment, ce qu'étaient devenus les projets mis en discussion, les projets soumis à la discussion et quelle est ensuite la décision du maître d'ouvrage. Alors, on va dire que ce n'est pas en termes de décision finale, puisque très peu de projets qui passaient par des débats publics ont fait l'objet ou de décisions. Encore moins de réalisation, mais c'était sur le design des projets. Est-ce qu'il y avait. D'ailleurs, ça renvoie à une catégorisation que la CNDP mobilise elle-même. Est-ce que le projet sort tel qu'il est rentré, ou est-ce qu'il fait l'objet d'aménagement, de compensation. Enfin, voilà. Donc, ces éléments-là, je les avais interrogés. Ce qui apparaît quand même, c'est qu'il y a bien un effet des débats publics, au sens où on pourrait dire que ça précipite, au sens chimique, les discussions. On voit bien qu'un des enjeux de ces débats, c'est de travailler cette conciliation des enjeux ou des trois piliers du développement durable, c'est-à-dire à la fois comment on répond aux besoins de déplacement pour accompagner le développement économique, mais comment on le fait sans renoncer à penser la solidarité, alors territoriale et sociale, et tout en satisfaisant aux exigences de protection de l'environnement naturel et humain. Et là, on a des effets, alors même si, encore une fois, les procédures ne sont pas seules comptables de ces effets de diffusion des principes du développement durable, mais on sent que ces débats, parce qu'ils travaillent en permanence cette difficile conciliation entre ces enjeux, et dans les débats autour en matière de transport, il y a toujours ces trois dimensions qui sont qui sont maniés et travaillés. Et on a là des effets en termes de consolidation, on pourrait dire, de ce référentiel de l'action en matière de grands projets. Alors, ça ne veut pas dire que tous les grands projets se pensent selon le développement durable, mais il y a quand même désormais des évolutions qu'on peut pointer, alors, qui sont, on pourrait dire, qui renvoient à une logique cognitive. Il y a des effets très substantiels quand on regarde le design des projets, entre la façon dont les projets étaient pensés il y a 30 ans, ou même quand on les travaillait avec Cécile dans les débats Bianco, où on avait des maîtres d'ouvrage qui résonnaient assez classiquement comment aller très vite de A à B le moins cher possible. 20 ans plus tard, quand on regarde les projets, ils sont évidemment devenus beaucoup plus complexes, plus hybrides. Et ce qui est très tout à fait remarquable, c'est qu'il y a 20 ans, dans ces débats, quand les associations environnementalistes et les riverains disaient « mais aménager l'existant plutôt que de réaliser des projets en site propre », on leur ricanait, on leur disait qu'ils étaient évidemment d'affreux réactionnaires, que tout ça n'avait pas de sens, qu'il y avait des contraintes techniques, qu'il ne fallait pas penser comme ça. Aujourd'hui, l'aménagement de l'existant traverse, y compris les positions des maîtres d'ouvrage. Alors, ils le font de façon, c'est-à-dire, on pourrait dire à la fois, ça traverse, c'est ancré, ou en tout cas présent dans la définition des projets, mais c'est aussi présent pour des raisons stratégiques. Donc, il faut aussi le prendre comme ça, c'est-à-dire qu'il y a, au moment de la définition des projets, toujours l'esprit des maîtres d'ouvrage, la question, l'issue, la sortie honorable du débat, si jamais les choses ne se passent pas bien, pour le dire un peu trivialement. Et donc là, on voit bien que l'aménagement de l'existence est souvent cette sortie honorable qu'on sera prêt à soutenir si jamais le plan A était trop controversé. Alors, une raison, au fond, tactique qui est tout à fait présente aujourd'hui, néanmoins, qui a des effets, on pourrait dire, performatifs, de fait. Et l'autre aspect, c'est aussi, qui renvoie aussi à cette dimension tactique, c'est bien sûr la question des moyens financiers. On voit bien que c'est aussi à partir du moment où la question du financement de ces infrastructures est devenue plus compliquée, que la durabilité, évidemment, se retrouve davantage perçue comme acceptable. Donc c'est une façon, là, elle a un bon dos, mais de fait, elle se retrouve défendue par des maîtres d'ouvrage qui se disent, après tout, effectivement, parce que nous ne pouvons pas réaliser ce tronçon en site propre, aménagement à l'existence, ça nous permettra d'attendre d'ailleurs des jours meilleurs et des lendemains qui chantent. Alors, on l'observe sur les projets de transport, on observe ce même type d'évolution, si on prend un pas de temps là, sur les trois dernières décennies, dans le champ urbain, la construction de la ville sur la ville, la densification versus l'étalement urbain, c'est aussi cette façon de dire on parle d'existant, on fait modeste, on essaie d'articuler les enjeux ou de concilier ces enjeux qui supposent d'accompagner le développement, mais de ne pas trop peser sur l'environnement. Alors là, on a un effet du débat, encore une fois, en termes de problématisation tout à fait intéressant. Et encore une fois, je pense qu'on va soutenir l'idée que, en ayant rendu discutable les projets, en le faisant de façon répétée, réitérée, ce qu'on observe, c'est que peut-être un débat tout seul ne suffit pas, mais l'ensemble de l'offre publique de participation a des incidences. Et je voudrais conclure donc là-dessus, alors avec quand même quelques alertes méthodologiques, mais elles ont été déjà énoncées ce matin. Ça a été dit alors par Cécile notamment, qui parlait de la myopie procédurale, qui a caractérisé souvent les travaux sur la participation. On a la même alerte de la part de Alice Mazot, qui parle de tropisme procédural. Ça, c'est absolument important, effectivement, d'en sortir. On a envie de dire, les monographies, ça suffit. On a maintenant besoin, effectivement, alors ça se faisait déjà, je ne dis pas que ça ne se faisait pas, mais on a envie de dire, moi j'arrête de lancer mes étudiants sur les monographies depuis quelques temps maintenant, mais il faut effectivement prendre en compte le système d'action dans lequel cette offre de participation est proposée, et dans toutes ses dimensions, ça a été dit, aussi bien politique, économique, parce que sinon on ne voit rien, on ne comprend rien, et on ne peut pas, évidemment, envisager la question des effets. Deuxième remarque méthodologique, c'est la question de la temporalité. Je le dis là encore ce matin, mais on a là aussi un vrai enjeu. Là, le recul désormais peut être pris. Hein. On doit pouvoir commencer à penser à monter en généralité en matière d'effets, mais évidemment, il faut qu'on ait des programmes de recherche qui s'y prêtent. Et enfin, dernière chose, c'est que les effets, quand même, ne sont pas minces, on l'a dit, et en insistant sur la nature des rapports sociaux, et c'est pour ça qu'il faut regarder aussi les acteurs, comment ils s'organisent et agissent dans ces dispositifs et en dehors, ça permet à la fois de voir à quel point il y a des effets en termes de structuration de la société civile, hein, c'est vrai, des citoyens singuliers qui s'engagent, des effets aussi sur les institutions, leurs administrations, les organisations. L'introduction de nouveaux métiers avec de nouveaux savoirs à l'intérieur même des institutions, notamment les grands opérateurs publics, là c'est un effet qui n'est pas mince parce que ça transforme, hein, là de façon, alors si ce n'est pérenne, en tout cas profonde, il me semble le jeu démocratique aujourd'hui. Voilà, merci.